Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Le code de la famille a été modifié à cause de la présence dans ce document des dispositions discriminatoires à l'égard de la femme et de la fille. Par exemple, l'incapacité juridique de la femme mariée, le mariage de la fille à 15 ans, mais à 18 ans pour les garçons. Alors, quelles sont les autres innovations apportées dans le code de la famille? Annie Kenda, vous êtes directrice du service juridique au ministère du Genre, Famille et Enfants. Bonjour.
Bonjour.
Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi, quelles sont les raisons qui ont milité pour la révision du code de la famille en République démocratique du Congo?
Oui, les causes sont profondes et importantes. C'est-à-dire que le code de la famille devrait, dans un premier temps, s'adapter au contexte national et au contexte international. Le contexte international, c'est que la République démocratique du Congo a ratifié plusieurs textes internationaux auxquels devrait s'adapter, notamment la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme, la Convention relative aux droits des enfants, ainsi que le protocole de Maputo, la Déclaration solennelle des chefs d'État de l'Union africaine. Et au niveau national, il devait s'accommoder à la Constitution, qui dit que dans son article 40, la famille est la cellule mère de la communauté. Et au niveau de l'article 14-15, les pouvoirs publics doivent veiller à ce qu'il n'y ait plus de violence faite aux femmes, de discrimination. Et la loi sur la parité doit être mise en place pour pouvoir réduire les inégalités qui existent encore au niveau de notre pays dans le traitement de l'homme et de la femme. Et ainsi, le code de la famille, comme il était écrit en 1987, il y avait des discussions qui étaient encore obsolètes, et il était question qu'on puisse harmoniser ce texte avec toutes ces questions que je venais de dire, le contexte d'abord socio-culturel national, le contexte international et les questions légales, et aussi par rapport à la terminologie. Et qui, dans les temps, les pays s'appelaient Zaïre, la monnaie, Zaïre, notre pays.
Oui.
Et aujourd'hui, nous parlons en termes de la République démocratique du Congo, qu'il s'agit de la monnaie, c'est franc congolais. Il fallait que toute la terminologie soit harmonisée par rapport au contexte actuel.
Voilà. Alors, parlez-nous de ces innovations. Quels sont les articles qui ont été modifiés?
Oui, des articles, vous savez, le code de la famille a 4 livres. Mais nous avons fait un effort pour intégrer aussi les livres premiers de la nationalité qui étaient modifiés déjà en 2004. Et nous avons le livre que nous avons intégré maintenant dans l'arsenal de code de la famille, la charpente du code de la famille. Nous avons le livre 2 qui parle de la personne. Nous avons le livre 3 qui parle de la famille. Et le livre 4 qui parle de succession et libéralité. Au niveau de la loi sur la nationalité, nous pouvons dire que l'égalité des droits sont acquis entre l'homme et la femme, parce que les personnes ayant la nationalité congolaise d'origine doivent bénéficier de l'égalité des droits, de jouissance de leurs droits civils et politiques, notamment les droits d'élire et d'être élu, et de la protection des femmes et de la loi en tant que citoyenne. Et à titre d'exemple, ils sont soumis aux mêmes obligations. Et au niveau de l'acquisition de la nationalité congolaise par le fait du mariage, la loi a déjà changé. Le mariage n'exerce aucun effet sur la nationalité congolaise. L'étranger ou la patrie qui contracte le mariage avec un conjoint de nationalité congolaise peut, après un délai de 7 ans, à compter du mariage, acquérir la nationalité congolaise.
Alors, Madame Annie Kenda,
du mariage, oui. À point d'effet sur la nationalité des enfants qui en sont issus.
Oui, par rapport à la nationalité de la femme mariée, l'article 30 de l'ancien code disait la femme congolaise épouse d'un étranger ou la congolaise dont le mari acquiert une nationalité étrangère perd sa qualité de congolais.
Alors, c'est comme ça qu'actuellement, cette disposition a été révisée. Elle ne perd plus sa qualité. Elle fait les choix elle-même si elle veut changer. Enfin, si elle ne change pas, si elle veut garder sa nationalité, elle la garde. cette disposition a été changée. C'est pourquoi nous disons que le mariage n'exerce aucun effet sur la nationalité congolaise, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme.
Mmh. Mais par rapport aux éléments du nom, quelles sont les innovations apportées?
Oui, au niveau du livre 2 de la personne, les noms sont puisés dans les patrimoines culturels et puis les attributions du nom aussi. La notion de les noms de l'enfant doit être puisé dans le patrimoine du Congolais et ça ne doit pas être des noms, un nom qui est un caractère injurieux. Et puis les noms que j'ai donné à l'enfant, ces noms, maintenant on a changé en disant les prénoms, les noms et les postnoms comme éléments du nom.
Donc on a ajouté avant, le prénom comme élément du
voilà.
Nom.
Mmh. Voilà, élément nom, et prénom, nom et postnom. Et au niveau de l'attribution du nom aussi, ce sont des parents qui attribuent le nom, pas seulement les pères. En cas de désaccord, l'un des parents apporte un nom, un élément du nom à l'enfant.
D'accord. Alors parlons maintenant par rapport à la capacité de la femme mariée. On disait que la femme mariée doit obtenir l'autorisation de son mari pour tous les actes juridiques. Aujourd'hui, que prévoit le code de la famille?
La capacité de la femme mariée n'est plus limitée. L'article 212 disait « sont incapables au terme de la loi les personnes ci après, les majeurs aliénés d'esprit produits ainsi que les femmes mariées ». Mais actuellement, la loi n'est... La loi rejette cette disposition en accordant la possibilité à l'homme et à la femme de s'accorder pour tout acte de mari, pour tout acte dans lequel ils sont obligés d'exercer leurs activités ou de poser des actes. Il n'y a plus d'autorisation.
Il n'y a pas d'autorisation maritale. Même pour le travail. Oui, même pour la femme qui veut aller travailler aujourd'hui, elle n'a plus besoin de l'autorisation de son mari.
Non, l'autorisation maritale cède la place à l'accord entre époux pour tous les actes dans lesquels ils s'obligent à une prestation qu'ils doivent effectuer.
Oui.
Et l'autorisation maritale laisse la place au régime d'accord entre les époux.
Et si les deux conjoints n'arrivent pas à s'accorder?
S'ils n'arrivent pas à s'accorder, ils doivent d'abord se référer au conseil de famille. On a beaucoup plus favorisé la conciliation qu'aller directement au tribunal. Parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un qui sent que il y a une situation irrémédiable de continuer à rester dans la même position. S'il n'y a pas vraiment d'accord, ils peuvent saisir le tribunal de paix.
D'accord. Donc parlons des modifications apportées au code de la famille. Quelles sont les innovations? Annie Kenda, directrice du service juridique au ministère du Genre, Famille et Enfants. Merci à tous les auditeurs qui veulent participer à cette émission. Platini Mbombo nous appelle déjà d'Mbandaka. Vous voulez également intervenir? Appelez au 081 890 63 94.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Radio Kapi reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiookapi.net et demandez une chanson et nous vous ferons le plaisir de vous faire plaisir.
Modification du code de la famille, quelles sont les innovations? Platini Mbombo, vous êtes en Mbandaka, bonjour.
Bonjour Jeudi, bonjour l'invité ainsi que à tous les auditeurs de la radio Tapi. Hein.
Quelle est votre préoccupation, Platini?
Je crois que le sujet est tellement très important parce que en rapport avec le code de la famille, ça nous concerne tous. Je crois que nous tous aussi, nous sommes sortes de pères de famille et tout ça. Et moi, j'ai bien suivi l'invité, ce qu'il a dit, parce qu'il a beaucoup évoqué en rapport avec le changement, tout ça, il faut aller au père, des choses comme ça. Et je voudrais aller rapidement, beaucoup compte tenu du temps, pour vous amener une petite question. Qui est censé à changer le code familial? Parce qu'on voit souvent, quand on s'est marié, je crois que quand on s'est marié, souvent, quand une autre femme s'appelle d'autres noms chez elle à la maison, quand elle se marie, lui concorde avec son mari.
Il arrive.
Et maintenant, comme comme maman est là, comme l'intervenant est là, qu'est-ce qu'il peut quand même nous dire en rapport avec le changement de code familial et qui est censé à changer? C'est le tribunal des pères ou bien c'est le père, parce que c'est le père qui est le numéro un de la famille. Voilà, je dis ma petite
préoccupation. Donc vous voulez parler, Platini, votre préoccupation c'est par rapport au nom attribué à l'enfant?
Voilà, le nom attribué à la fois. Qui est censé attribuer le nom à la fois? Donc je crois un peu, voilà un peu ma petite préoccupation, je dis.
D'accord, madame Annie Kenda, vous avez la parole.
La loi dit que l'enfant porte le nom accordé par les parents. Les parents, c'est-à-dire papa, maman, qui sont les géniteurs de l'enfant. C'est ça.
Donc les deux conjoints peuvent s'accorder et...
Ils s'accordent et donnent le nom à l'enfant.
Donc ce n'est plus l'exclusivité de papa?
Non, ce n'est plus l'exclusivité de papa.
D'accord. Voilà. Et il a posé également la question de savoir pour qui est censé modifier le code de la famille.
C'est le gouvernement.
Voilà, c'est le gouvernement.
C'est le gouvernement à travers ses services. Ses services et les ministères ayant la famille dans ses attributions qui a initié les projets en collaboration avec les ministères de la Justice et tous les acteurs impliqués qui ont travaillé et qui ont soumis le dossier au ministère, au gouvernement. Le gouvernement, dans son ensemble, a adopté, il a envoyé au Parlement, et le Parlement a reçu différemment les dossiers dans les deux chambres, d'abord le Sénat, et puis l'Assemblée nationale, et après, il y a eu une commission paritaire. Après cette commission paritaire, la loi a été envoyée, elle a été adoptée au niveau des deux chambres, dans les mêmes termes, et il a été envoyé à la présidence pour la promulgation.
Bien. Parlons à présent de la direction du mariage. L'article 444 du Code de la famille disait « Le mari est le chef du ménage. Il doit protection à sa femme. La femme doit obéissance à son mari. » Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Madame Annie Kenda, par rapport à ces dispositions?
Et actuellement, la disposition dit « Le mari reste le chef de famille. » Cependant, pour des raisons d'harmonie et afin de stabiliser le foyer, la concertation entre les époux est consacrée dans la direction morale, dans la gestion financière et matérielle du ménage, en lieu et place de la subordination hiérarchique.
Alors, pouvez-vous expliquer davantage, voilà?
Ce qui veut dire que le mari est le chef du ménage, les conjoints se doivent mutuelle considération, conception, affection et protection. Parce que la protection est mutuelle.
La protection est mutuelle. Donc, le mari reste le chef du ménage, mais il travaille en collaboration avec son épouse.
Oui.
Et revenons à présent à cet article, à l'article 467, par rapport à la poursuite de l'infraction d'adultère. L'ancien code disait sera puni du chef d'adultère le mari qui aura eu des rapports sexuels avec une personne autre que son épouse si l'adultère a été entouré des circonstances de nature à lui imprimer le caractère injurieux. Aujourd'hui, quelles sont les dispositions du code de la famille par rapport à cela?
Par rapport à cela, parce que dans les ménages, il y a équité. L'homme et la femme doivent vivre dans la même considération, dans la cogestion. L'infraction d'adultère est désormais sanctionnée et punie dans les mêmes circonstances, de la même manière, tant pour le mari que pour la femme. Plus question de conditions particulières pour l'adultère de l'homme.
Un exemple, Madame Annie.
Non, un exemple, c'est que on est marié, homme et femme, si... un partenaire, un conjoint trouve que l'autre a dérogé à la voie dans laquelle ils se sont obligés de vivre ensemble, il a l'obligation de porter plainte. Parce que pour que l'adultère soit puni, il faut que la personne qui est lésée puisse se présenter, se plaindre, puisse porter plainte. Et c'est dans ce sens-là que et on ne peut pas continuer à mettre des conditions particulières pour l'un et l'autre. Les conditions sont maintenant les mêmes. Si c'est la femme, et l'homme se plaint. Si c'est l'homme, la femme se plaint.
Voilà. Et nous avons la réaction de Léon Bambi sur la page Facebook de l'émission Mon Café Service. Il dit, ma préoccupation est de savoir, il pose une préoccupation, sa préoccupation concerne la dot. Pourquoi le mariage, est-ce qu'il y a pas un article qui parle de la dot? Car aujourd'hui, la femme est considérée comme une marchandise et non comme une personne par sa famille à cause du coût exorbitant. Aujourd'hui, pour épouser une femme, on vous demande beaucoup d'argent pour la dot. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Léon Bambi à ce sujet?
Par rapport à la dot est restée symbolique. Et que les parents, c'est une des conditions de fond de mariage, et on le considère comme un symbole pour pouvoir faciliter à ce que les futurs époux soient ensemble. Ce qui s'est fait, la loi ne donne pas tout ce qui entoure le contenu de la dot et n'amène pas les familles à pouvoir pratiquer ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en exagérant. La loi pose le principe que la loi est symbolique et la dot est symbolique. Mais les parents qui sont en train d'exagérer, c'est une déviation. Il faut leur donner des conseils pour qu'ils sachent que dans la loi, le principe fondamental qui est posé, c'est que tous les êtres humains sont égaux devant la loi, homme comme la femme. Un autre être humain ne peut pas prétendre considérer l'autre comme un objet. Et pour pouvoir dire qu'il va les marier ou il va les conditionner.
Bien. Nous avons la réaction des patients Paul Ngoy qui dit lorsqu'on crée ce code sans un encadrement adéquat, c'est favoriser de plus en plus les discriminations. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire?
Discrimination par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
Voilà. Il n'a pas bien expliqué. Et puis, il dit, d'après lui, l'âge pour se marier, pour les filles, doit être revu à 20 ans et pour les garçons, à 25 ans.
Je vous ai dit avant que la loi devait se conformer aux autres textes. Nous avons la loi sur la parité qui parle de l'égalité des droits. Nous avons la constitution qui parle que tous sont égaux devant la loi. On ne peut pas faire la discrimination pour dire que la femme doit se marier à 20 ans et le garçon à 25 ans. Notre loi pose le principe que la majorité de toute personne, fille comme garçon, comme femme, c'est à 18 ans.
À 18 ans.
C'est à 18 ans qu'on pose des actes en tant que citoyen adulte et aussi l'âge nubile dans le code de la famille, c'est à 18 ans pour la fille, pour le garçon. Mais si les gens trouvent qu'ils peuvent se marier à cet âge-là, ça dépend, mais la loi ne peut pas faire l'exception.
La loi ne peut pas faire exception. Nous parlons de la modification du code de la famille. Quelles sont les innovations? Notre invitée est Mme Annie Kender, directrice du service juridique au ministère du genre, famille et enfants. Alors parlons à présent de la gestion des biens dans le mariage. L'article 490 disait la gestion des patrimoines communs et propres est présumée être confiée au mari. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, Mme Annie?
Oui, être confié au mari, mais en concertation avec sa femme. Voilà la phrase qui est ajoutée. C'est être confié au mari, mais en concertation avec sa femme. La révision vise plus l'unité, la stabilité du foyer que la gestion unilatérale des biens du ménage. Parce que quand on est dans les ménages, on fait un corps, on n'est plus deux, on est un.
Nous savons généralement que lorsque le mari décède, la femme elle est chassée et toute la famille de l'homme récupère tous les biens. Et c'est ce qui arrive souvent dans la société. Alors comment est-ce que cette disposition va résoudre ce problème?
Non, c'est parce que en cas de décès, les gens ne lisent pas très bien la loi. La loi propose tout un régime qui se conforme au régime matrimonial. Ça dépend des régimes auxquels les époux se sont ont choisi. Et en tout état de cause, la loi dit que quels que soient les régimes matrimoniaux, les époux se concertent pour tout faire. Et quand il y a un décès, il y a d'abord le régime de liquidation de la succession. La succession doit être liquidée par des personnes attitrées et la famille doit être assistée par un avocat qui doit les aider à ce qu'on puisse d'abord liquider. Dans les liquidations, il faut d'abord faire la part des choses. On fait d'abord la division des biens de celui qui est le défunt en deux. On donne aux survivants la part. Maintenant, la part de ce qui reste du défunt, c'est cette part-là où on assure maintenant la manière comment il faut donner à l'un ou à l'autre. Mais dans la pratique, les gens ne comprennent pas et n'arrivent pas à exercer la loi comme elle est définie, parce qu'il y a différentes catégories. Il y a d'abord la première catégorie des héritiers, mais dans les mariages et hors mariage, il y a la deuxième catégorie qui est les conjoints survivants, et puis les membres des familles et autres, s'il n'y a pas d'autres personnes qui peuvent, s'il n'y a pas des enfants ou qui peuvent succéder au bien du défunt. Mais dans la pratique, ce que nous vivons, c'est autre chose, parce que les gens visent seulement les biens pour pouvoir posséder les membres de la famille. Ce sont des abus pour lesquels nous sensibilisons pour que et les hommes et les femmes puissent enregistrer leur mariage à l'état civil. En cas de décès ou en cas de problème, il y a facilité et choisir aussi un régime matrimonial clairement, et il y a facilité de pouvoir régler. Et s'il y a un conseil dans la famille, il y a un avocat qui accompagne la famille, il n'y aura pas de problème. Et il faut que les familles comprennent que quand il y a un décès, ce n'est pas une occasion pour pouvoir déposséder la famille, c'est plutôt une occasion pour pouvoir compatir avec la famille.
Parlons à présent du délai des déclarations des naissances. L'article 116 disait les 30 jours, il faut déclarer la naissance, les 30 jours qui suivent, déclarer un enfant les 30 jours qui suivent la naissance. Aujourd'hui, que prévoit le code de la famille modifié?
Oui, on a harmonisé cette loi avec, cette disposition avec la loi portant protection de l'enfant qui parle des 90 jours. Et la même chose dans les codes de la famille, on a rapporté ça à 3 mois pour aider les familles qui n'ont pas la possibilité d'aller facilement déclarer les enfants qui puissent le faire.
Nous avons en ligne Mezo qui nous appelle de Kikwit. Bonjour, quelle est votre question? Bonjour Mezo.
Je salue également en passant tous les auditeurs que nous suivons en ce moment. C'était vraiment préoccupation, c'était par rapport à l'autorisation maritale qui est tombée caduque depuis lors. Moi, en tant que serviteur de Dieu, nous avons réalisé dans nos églises, dans la plupart des cas, qu'il y a eu, si cela encourageait parfois la dissolution de plusieurs mariages. Nous avons réalisé, parce que moi également, j'ai déjà trouvé dans notre église, et c'était à l'époque à Kinshasa, une dame, un monsieur qui présentait la requête, un frère, sur laquelle la femme était venue pour lui dire que non, j'ai déjà trouvé, mes parents m'ont fait étudier, maintenant que vous ne vouliez pas, comme il n'y a pas l'histoire de l'autorisation maritale, ils ont eu des entretiens, la femme et le mari n'ont pas accepté, mais la femme est venue présenter sa demande qu'il devra voyager pour, elle devrait voyager pour le Lubumbashi, c'est là où elle a trouvé le travail. Maintenant vous voyez, il y aura maintenant un désordre, le mari sera à Kinshasa et la femme ailleurs. Vous voyez que dans la plupart des cas, nous réalisons vraiment, ça engage beaucoup de discorde dans les foyers. Et nous devons vraiment voir parfois, quand on voit la modification de nos textes par rapport au code, il faudra parfois s'y soumettre aux serviteurs de Dieu. Parce que quand nous allons dans des pays musulmans, des pays arabes, nous voyons le code. Donc la morale est également inclue dans ce qui est dans l'autorité de l'État. Donc ce qui est la religion, l'État et la vie morale, passe de pair. Cependant, dans nos pays soi-disant chrétiens, ce n'est pas ça le cas. Et les répercussions retombent dans nos églises, dans nos familles, c'est pourquoi nous avons le phénomène Kuluna. Parfois, la base est la famille. Donc, moi, je préfère à ce que donc puisse encore revoir cela, parce que dans une entité filiale, nous avons le chef, mais quand par exemple on parle plus de l'autorisation maritale, c'est que la chefferie du Mali est tombée caduque. C'est comme le gouvernement de Kassavu et le Mumba, vous comprenez?
D'accord,
décide,
merci.
On sait pas. Quand tout le monde décide, c'est la personne décide, c'est le chaos.
Merci.
Voilà ma contribution par rapport à ça.
Merci à Mezo depuis Kikwit. Augustin, vous êtes à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Je salue d'abord l'invité et tous les auditeurs de la radio Capi. Voilà, ma préoccupation est la suivante. Dès lors que c'est les maris qui donnent la dot, et encore exorbitant, il arrive des fois que les maris aient des ailes. C'est considérable que non, c'est lui le chef de la famille et se permettre à faire de n'importe quoi. Alors, je voulais savoir, c'est bien d'avoir les lois, c'est bien d'avoir les modifications, mais qu'est-ce que les secteurs, les gestionnaires de ces lois-là, les gestionnaires de ces lois font pour que toutes les femmes s'imprègnent de leurs droits? C'est pas quelque chose qui doit rester dans les tiroirs. Et pour les juristes, et pour non, il fallait que la femme se trouve à Bassankousou, à Kindou, et je ne sais pas à Kisangani, soit au courant de toutes ces lois.
Oui.
Je voulais savoir qu'est-ce que les gestionnaires de ces lois font pour que tout le monde soit au courant de ces lois. Merci.
Merci, Madame Anikenda. Vous avez suivi la réaction de Mezo, de Kikwit, qui dit supprimer aujourd'hui l'autorisation maritale pour une femme qui veut travailler, c'est créer des problèmes dans les familles. D'après lui, il y a eu même, il a enregistré des cas de dissolution de mariage à cause de cela. La femme a trouvé un emploi, par exemple à Lubumbashi, elle veut partir et le mari n'était pas d'accord et finalement elle a décidé de partir et ça. Et cela a eu des conséquences sur le foyer, la dissolution du mariage. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire à ce sujet? Il n'est pas d'accord avec cette disposition.
Non, c'est un problème de compréhension. Dans tout état de cause, la loi ne peut pas trop interférer dans le ménage. La loi pose des principes. Mais dans chaque ménage, dans chaque vie commune, l'homme et la femme doivent s'entendre. Il ne faut pas que l'homme trouve que quand la femme pose le problème, il est obligé de s'imposer. Non, il faut que l'homme trouve l'intérêt qu'il y a pour leur ménage par rapport à ça. Et s'il trouve qu'il y a intérêt, ils doivent s'entendre, ils doivent trouver peut-être un régime qui peut les aider à ce que l'un et l'autre puissent trouver son compte. Et il faut maintenant savoir pourquoi l'homme refusait et pourquoi la femme a tenu à partir. Et tout ça aussi, ça entre dans la ligne de compte. Il faut que le conseil de famille puisse gérer cette question-là et voir comment les réconcilier et trouver la part des choses et voir ce qu'il y a comme intérêt d'abord pour les ménages, intérêt pour qu'ils soient ensemble. Si l'homme persiste, et la femme persiste, c'est qu'au départ, il y avait un conflit qui n'a pas permis à ce qu'ils puissent s'entendre. Mais cela ne veut pas dire que c'est par rapport à la loi. Parce que dans tout pays, dans toute situation, dans toute circonstance, à tout moment, dans la gestion de la chose publique ou de l'environnement, il faut toujours qu'il y ait des lois. Il faut qu'il y ait des principes, il faut qu'il y ait des clauses. Les gens ne peuvent pas vivre sans qu'il y ait des principes, des droits qui conduisent la manière de vivre des uns des autres.
Augustin de Kinshasa dit, alors, il ne faut pas que cette loi, ce code de la famille modifié reste dans les tiroirs. Qu'est-ce que vous faites, Madame Annie, pour vulgariser auprès des femmes?
Nous saluons ce que vous avez fait aujourd'hui. En parlant de ça, beaucoup de gens ont suivi, tous ceux qui suivent Radio Capi, et nous sommes déjà en train de travailler pour sensibiliser. Si vous suivez les émissions, les balles à Bossembo, on a déjà commencé à travailler avec la RTNC et Madame Oja Malaika, et on a fait des supports importants qui sont en train d'être vulgarisés, et nous pensons que sa préoccupation est fondée, elle est légitime, et c'est notre préoccupation aussi, et nous voulons vraiment que tout le monde soit informé et que tout le monde s'intéresse.
Voilà,
pour que la situation change et que chacun recouvre ses droits et que chacun travaille en fonction de ses droits fondamentaux.
Voilà, donc la mobilisation, disons la vulgarisation est en train elle est faite. Est-ce que par exemple ce code
est en train d'être fait, mais n'est pas encore fait complètement. Il faut vraiment que tout le monde puisse chercher à l'avoir, et que tous ceux qui sont concernés pour la vulgarisation, les magistrats, les avocats, les services, les ONG et autres, les églises, qu'ils puissent en approuver et qu'ils cherchent les juristes qui puissent leur donner l'information par rapport à ça.
Voilà, on retient dans l'ensemble qu'il y avait des discriminations, il y avait des dispositions discriminatoires à l'égard de la femme et de la jeune fille. Aujourd'hui, tout cela a été corrigé dans ce code de la famille modifié. Allô, Madame Annie? Voilà, il n'est plus en ligne. Merci. Je rappelle qu'elle est Madame Annie Kendall, directrice du service juridique au ministère du genre, famille et enfants, et avec elle, nous avons parlé des innovations apportées au code de la famille.